Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une des grandes épopées qui ont émaillé le XXe siècle que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il m'est arrivé plusieurs fois à ce micro de vous parler de la croisière jaune, cette expédition du début des années 30 en Asie, dans l'Himalaya, etc. Eh bien aujourd'hui, c'est sa grande sœur, si je puis dire, qui nous intéresse, une expédition africaine du milieu des années 20, la croisière noire. Marc Menant n'est jamais en retard d'une aventure, vous le savez. Eh bien c'est lui qui nous accompagnera sur les routes de cet ancêtre du Paris Dakar, si je puis dire, avec une vision et une ambition tout autre, hein, puisqu'il s'agissait d'une expédition scientifique, culturelle, une expédition humanitaire aussi.
Et tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondra à la question d'Alexandre sur les origines du camping en France.
Et pourquoi ce sourire en coin, là, Anissa? C'est pas parce que je n'ai jamais campé que je n'ai pas l'intention de m'y mettre.
Ah, bon, bonne nouvelle.
En attendant, cap sur la savane.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il est 2h du matin, ce 15 octobre 1924, 2h du matin, quand le dernier coup de marteau vient fermer la dernière des caisses dans lesquelles des auto-chenilles vont être transportées jusqu'en Algérie, ce qui est à l'époque l'Algérie française, à Colombéchard. Qu'est-ce que c'est qu'une auto-chenille? Ben, c'est une voiture, hein, simplement, c'est une automobile, mais qui est équipée un peu à la manière des chars d'assaut, si vous voulez. Et nous entrerons tout à l'heure avec Marc Menant dans le détail de tout cela, qui est équipée de chenilles, ce qui lui permet de circuler sur des sols meubles difficiles, tout simplement dans le désert, notamment, et sur le sable. Alors il faut le voir, il est là, cet homme trapu, énergique, les yeux tout pétillants derrière ses binocles. Il est là qui assiste à la scène bras croisés. Cet homme, vous l'aurez deviné bien sûr, c'est André Citroën. André Citroën a 45 ans à l'époque. C'est un personnage incroyable. On aurait pu faire non pas une mais 10 émissions sur lui. Vraiment une grande figure de ce début du XXe siècle français. Un homme très fortuné, certes très puissant aussi, mais qui est bien autre chose encore. Quelques années plus tôt, en 1919, Citroën est devenu le premier à concevoir une voiture prête à rouler, comme on disait, une voiture économique avec un démarreur électrique et des roues de secours. C'est-à-dire que, disons les choses tout à fait clairement, jusqu'alors, pour avoir une automobile, il fallait avoir le personnel qui allait avec, et notamment un chauffeur mécanicien qui était capable constamment de réparer, de faire démarrer l'engin, etc. À partir de ces voitures, et la toute première grande voiture hyper populaire, si je puis dire, ce sera la 5HP. La 5HP, ensuite il y aura la 10HP, qui va être une automobile construite en grande série. Ces voitures, ce sont des voitures que Monsieur Tout-le-Monde peut conduire. On la démarre facilement, on la répare pas trop difficilement non plus. Bref, c'est une voiture prête à rouler, prête à conduire. Citroën a ouvert des filiales dans toute l'Europe. Il est allé voir rencontrer aux États-Unis un certain Henry Ford, bien entendu, hein, le patron des usines Ford. Et d'ailleurs, un certain nombre des techniciens qui travaillent chez Citroën se sont formés aux États-Unis dans les usines Ford. Donc, un homme ambitieux, je vous ai dit énergique, tout lui réussit depuis qu'il est lancé dans cette industrie. Et voilà 4 ans maintenant qu'il a une obsession, et c'est la traversée du Sahara en automobile. Il se dit que ce serait sans doute pas mal pour la publicité de sa marque également, parce que il se trouve qu'André Citroën a vraiment le sens de la publicité. Il a déjà, il faut le dire, lancé une expédition avec un grand succès. C'était le 7 janvier 1923 quand 5 auto-chenilles, sorties des usines du monsieur bien entendu, et qui étaient parties 3 semaines plus tôt, sont arrivées à Tombouctou après une traversée de 3500 kilomètres. Ça, c'était un raid qui avait nécessité 2 ans de préparation et qui avait pour but de créer la première liaison automobile entre l'Algérie et les pays du Soudan, des pays extrêmement isolés au-delà de la barrière saharienne. Ce raid avait également été l'occasion de rencontres et notamment de fraternisation avec des sociétés qu'on connaissait mal, je pense aux Touaregs notamment. André Citroën a tout adoré de cette expédition, à laquelle d'ailleurs il avait personnellement participé avec son épouse. Il est convaincu André, qu'il est possible, si vous me permettez de l'appeler ainsi, il est convaincu qu'il est possible d'établir des communications rapides, régulières, par automobile, maintenant entre l'Algérie, qui donc est ce département français à l'époque, et l'Afrique occidentale française, nos colonies d'Afrique de l'Ouest. 6 mois après la première expédition, la compagnie transafricaine Citroën est créée. On lance un département spécial pour monter cette expédition, tout simplement. Et pendant un an, il va falloir établir tout un matériel roulant, notamment des Borges Hôtels qui sont construits à Colombéchard, à Beni Abbès, à Adrar, Tombouctou, etc., à Gao, Niger. Bref, des relais, si vous voulez, sur le parcours. Le projet suscite l'enthousiasme des foules. On s'inscrit pour le voyage inaugural qui est prévu le 6 février 1925. On attend de nombreuses personnalités, dont le roi des Belges en personne et dont le chef d'état-major général de l'armée française de l'époque, qui n'est autre qu'un certain Philippe Pétain. Mais à cause de l'agitation suspecte de tribus du sud marocain, le gouvernement français estime que ce ne serait pas très prudent et il ajourne le voyage. Ça, c'est un coup dur pour André Citroën, et d'autant plus que son principal concurrent, Louis Renault, nous avons aussi beaucoup parlé à ce micro de cet autre industriel hors norme, Renault est bien décidé à se lancer dans une expédition au Sahara de son côté. Ah, donc là, ça y est, c'est évidemment le duel entre les deux hommes. Louis Audouin Dubreuil, sur Citroën, part de Colombéchard pour une traversée du Sahara en auto-chenille. Mais de l'autre côté, vous avez Georges Estienne qui, sur Renault, se lance lui aussi dans la course avec un 6 roues. Et il atteint Bourem sur le Niger. C'est donc une compétition, si vous voulez, une course de 550 kilomètres. Seul le Sahara fut vaincu dans cette compétition, nous dira un témoin. Alors, évidemment, Citroën est ambitieux, désireux d'aller plus loin en Afrique, malgré l'échec de son premier projet. Il veut rallier en automobile Alger à Tombouctou. Renault est bien placé et Citroën ne veut surtout pas lui laisser gagner du terrain. Il décide de poursuivre donc dans le plus grand secret l'organisation d'une nouvelle expédition Citroën Centrafrique, une expédition assez différente de la première. Alors, cette fois, ça va demander encore une fois plus d'un an de préparation. Là, il faut vous dire que cette traversée, elle avait été conçue dès le début de l'année 1923. Il ne s'agit pas de créer un circuit touristique, mais de montrer une opération scientifique. C'est pour ça que je le disais tout de suite, d'emblée, dans le début de cette émission. Il y a beaucoup de travail. Il faut apporter aux auto-chenilles un certain nombre d'améliorations techniques. Un centre technique et d'essais est d'ailleurs créé là-bas sur place en Algérie, à Colombéchard. Et finalement, ce sont 8 auto-chenilles à moteur 4 cylindres qui vont pouvoir s'aligner au départ. Le premier itinéraire prévoit de traverser les colonies françaises les plus isolées au cœur de l'Afrique, qui sont enclavées au centre de colonies étrangères qui, elles, disposent de ports sur l'Atlantique, l'océan Indien, la mer Rouge, etc. Certains endroits gardent leur tradition. Au Tchad et en Oubangui-Chari se trouvent, par exemple, les derniers grands marchés d'esclaves du centre africain. Vous voyez où on en est, avec des populations qui, encore à l'époque, sont totalement animistes, etc. L'idée, c'est de créer une voie nouvelle à travers le Sahara pour atteindre Bourem sur le Niger, la traversée de la colonie du Niger non loin de la frontière du Nigeria anglais, le contournement du lac Tchad par le nord et la traversée du Tchad et de l'Oubangui-Chari pour atteindre Bangui. Bangui qui est déjà à l'époque une ville moderne, une ville européenne. Alors, on va faire une percée jusqu'au Congo belge. L'expédition ensuite doit remonter à travers l'Oubangui-Chari et une partie du Tchad et prendre la direction de l'Est, traverser le Soudan anglo-égyptien jusqu'à Khartoum avant de terminer carrément dans la corne de l'Afrique, là-bas, en Abyssinie et à Djibouti. Cet itinéraire, il est prêt, on croit qu'il est au point d'une certaine manière, et c'est là qu'en fait on va le modifier, et non seulement on modifie l'itinéraire, mais il va falloir modifier aussi les objectifs même de l'expédition.
série télé Tarzan composée par Sidney Lee. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant pour la suite de son récit consacré aujourd'hui à la croisière noire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, Franck, vous nous emmenez à la découverte de cette expédition du milieu des années 20, la croisière noire.
Alors il y a deux rencontres qui vont remettre l'itinéraire, le premier itinéraire là, complètement en question. D'abord à la fin de 1924, Citroën et les principaux responsables de cette expédition vont rencontrer le président de la République de l'époque, Gaston Doumergue, et le président souhaite, il manifeste vraiment le désir que cette mission atteigne Madagascar, notre plus belle colonie, la grande île rouge qui demeure totalement isolée, dit le président de la République, donc il faudrait aller jusqu'à Madagascar. Et puis, il y a un deuxième entretien, cette fois avec le roi des Belges, le roi Albert Ier, qui conduit à réviser l'itinéraire au Congo belge. Le gouverneur sur place est prié de mettre en chantier le plus rapidement possible une piste de 500 km pour permettre aux membres de l'expédition d'atteindre la capitale du Congo belge, Stanleyville. Donc, vous voyez qu'il y a une dimension politique dans cette opération. Donc, ce qui veut dire que le nouvel itinéraire va passer donc par le Sahara, le Niger, Bangui, traverser la forêt vierge jusqu'à Stanleyville, puis l'Ouélé. Et ensuite, l'expédition doit passer au nord de l'Ouganda. C'est à ce moment-là que la mission se séparera en quatre groupes pour aller visiter le Kenya, le Tanganyika, le Nyasaland, le Mozambique et l'Afrique australe anglaise. Et puis tous ces groupes se réuniront ensuite, selon la volonté de Doumergue, de Gastounet, ils se retrouveront à Madagascar. Les missions ont pour objectif de réceptionner les matériels Citroën venant de France au port de Dakar, de Boma, de Conakry. Elles vont donc se déplacer, ces missions, parce que il faut bien vous dire que les autos ne sont jamais passées dans les régions qui vont être traversées. On a peur que certains peuples se soulèvent, d'autre part il y a des erreurs sur les cartes de l'époque, etc. Donc on envoie des gens sur place. Et ces missions vont attendre, elles vont aider, elles vont accueillir l'expédition. Elles devront aussi recueillir tout ce qui est les films, les photos qui ont été faites, les collections, etc. Et donc, six missions sont constituées. Ce sont des missions de ravitaillement avec 30 dépôts ou relais. Voyez un peu l'incroyable organisation que ça suppose. N'oubliez pas qu'on est un peu habitué, nous, aujourd'hui, aux grandes expéditions. On en a vu pendant tout le cours du XXe siècle. À l'époque, on n'est pas du tout habitué à ce genre d'énorme déploiement de force d'une expédition qui, quand même, reste, même si elle a une dimension politique, etc., reste une expédition privée. Alors, je dis que c'est privé, mais quand même, le ministère des colonies a demandé, je cite, de fournir un rapport sur les observations d'ordre économique, politique, sanitaire et touristique. La documentation purement économique traitera plus spécialement de l'état de la colonisation dans les colonies françaises et les pays étrangers traversés. Bref, il y a une dimension espionnage évidente dans cette opération, c'est évident. Des études doivent s'intéresser par ailleurs, et là on est davantage dans une mission civilisatrice, si j'ose dire, avec de grands guillemets bien sûr. On va s'intéresser aux grandes voies intercoloniales, à l'agriculture, à la préservation de la forêt, de la faune, aux exploitations minières, donc une dimension tout à fait économique et stratégique aussi, puisque cette expédition patronnée par le ministère de la guerre va demander un certain nombre de précisions sur des objectifs militaires. Il y a également l'instruction publique dans le coup, hein, le sous-secrétariat à l'aéronautique, le Muséum national d'histoire naturelle, la société de géographie, enfin bon, tout le monde prend sa part de cette extraordinaire expédition. Il a fallu bien sûr aplanir des difficultés avec l'Angleterre, elles ne sont pas mineures. Il ne fallait pas moins que l'énergie impressionnante d'un André Citroën pour mener à bien tout cela. Il a quand même 16 personnes qui travaillent avec lui sur le projet. Alors, l'administrateur et directeur général de ses usines, qui s'appelle Georges-Marie Hart, on y reviendra. C'est lui le chef de cette seconde expédition. Louis-Audouin Dubreuil, qui est un excellent pilote, qui a été chef adjoint de la première expédition Citroën et qui sera le chef adjoint de cette seconde traversée, un peu la cheville ouvrière de cette croisière noire. On y reviendra longuement tout à l'heure avec Marc Menant. Charles Brühl, qui est un ingénieur de centrale, qui lui effectuera des recherches minéralogiques et géologiques. Le commandant Bettenburg, qui fait partie de l'infanterie coloniale, Sénégal, qui connaît toute cette Afrique centrale, j'allais dire, comme sa poche, qui va s'occuper des itinéraires, du ravitaillement, et puis surtout peut-être des relevés cartographiques, ça ce sera très utile. Enfin, toute une escouade, si je puis dire, d'accompagnants culturels. Je pense à Alexandre Yakovlev, le grand peintre, qui a toujours porté sur ces sujets un regard d'ethnologue, ce qui a beaucoup intéressé Citroën, bien sûr. Le cinéaste Léon Poirier, qui part avec l'ambition de réaliser carrément un film documentaire. Georges Specht, qui était l'opérateur de Marcel L'Herbier, qui a déjà tourné dans le Sahara, d'ailleurs, puisqu'il avait tourné avec Jacques Feder le film L'Atlantide. Poirier et Specht emportent quand même avec eux 27 000 mètres de pellicule et plus de 2 000 pellicules de photographie. C'est tout à fait extraordinaire. Alors il faut aussi un spécialiste des maladies tropicales. Ce sera Eugène Bergonnier, qui est professeur à l'école de médecine de Dakar, qui connaît tout ça par cœur, qui constituera par la même occasion les collections zoologiques. On ne peut pas s'empêcher, quand on dit tout ça, de songer à une autre grande expédition qui, 120 ans plus tôt, avait fasciné toute l'Europe. C'était l'expédition Bonaparte en Égypte, vous savez. Il y a un peu, sans doute, chez André Citroën, de cette ambition-là, et peut-être même qu'on pourrait dire qu'il y a un peu chez Citroën du Bonaparte en puissance.
Tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Restez avec nous. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit sur la croisière noire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
On l'appelle aussi Expédition Citroën Centrafrique. Aujourd'hui sur Europe 1, Franck, avec vous, nous sommes au cœur des années 20 sur les traces de la croisière noire.
Il faut les imaginer, ces véhicules sortis des chaînes de montage de Citroën qui ont fait l'objet de toutes les attentions avec leurs chenilles. Alors il y en a un qui s'appelle Scarabée d'or, l'autre Éléphant à la tour, Soleil en marche, Escargot ailé, Croissant d'argent, Colombe, Centaure et Pégase. Ils sont là vrombissants, ces véhicules prêts à partir. Ils ont été leur carrosserie a été peinte en blanc et le 5 octobre 1924, donc on est en octobre 24, vous voyez qu'on a fait du chemin depuis janvier 23, la mission quitte Marseille, par bateau bien entendu, en toute discrétion, parce que le but c'est de ne pas éveiller la curiosité des journalistes et surtout du fameux concurrent Renault, toujours la même histoire. La mission arrive à Oran, elle prend le train en direction de Colombéchard, qui va être le point de départ officiel de l'expédition. Quand je dis une expédition, c'est 28 000 kilomètres de traversée. Alors quel est l'état d'esprit de Louis Audouin Dubreuil à ce moment-là, le chef adjoint de l'expédition ? Cette nuit, dit-il, j'ai l'âme d'un petit bourgeois mal vêtu qui prendrait sa valise pour aller de Chartres à Étampes. Je manque d'entrain. Pourquoi ? J'ai trop préparé cette aventure que nous allons vivre. Je ne peux imaginer que je vais peut-être laisser ma vie entre les cornes d'un buffle ou sous la patte d'un éléphant. Retrouverai-je une âme de conquérant en contemplant dans quelques jours les dunes blondes du grand erg occidental ? Il faut le souhaiter. Le 28 octobre 24, on est maintenant à Colombéchard, justement dans les lueurs roses de l'aube saharienne. La ville s'annonce aux voyageurs du désert par les hauts murs de terre ocre et les tours crénelées de son tsar, nous dit Audouin Dubreuil. Puis la palmeraie se dessine au-dessus des dunes érodées par le vent. On dépasse les marabouts cachés dans les plissures du sable. Le chef de l'expédition, c'est Hart, il est là dressé à l'avant sur son auto-chenille et il va donner le signal du départ, ce qui veut dire que toute la colonne se met en branle à ce moment-là, derrière celle du chef bien entendu, sous les yeux des militaires qui sont là, des légionnaires, des tirailleurs qui présentent les armes. Alors chaque auto-chenille, il faut le savoir, a un rôle différent. L'une s'occupe, vous l'aurez compris, du commandement, si je puis dire, de la direction, l'autre des cartes, des documents, des armes, une autre des archives et de la trésorerie, deux autres pour le cinéma, les photos, etc. Croissant d'argent sera dévolu aux armes de chasse et aux pièces de rechange. Colombe porte tout le service médical et puis tout ce qui concerne la taxidermie, etc. Et la nourriture, au passage. Quant aux deux dernières auto-chenilles, elles sont prévues respectivement pour la peinture et pour le dépannage. Chacune emporte 300 litres d'essence et 60 litres d'eau. Avec cette traversée du désert qui s'annonce compliquée hein, par des températures de 50 degrés, vous imaginez ça. Ça, c'est la journée. La nuit, on descend parfois au-dessous de zéro. On trouve un puits tous les 500 kilomètres. Avec un rythme d'expédition qui va être en quelque sorte dicté par le désert, on fait halte au moment de la plus forte chaleur en choisissant un endroit un petit peu élevé et au coucher du soleil, au moment où la température commence à baisser, eh ben ça y est, on remet les moteurs en marche et l'expédition s'ébranle. Lors de leur périple, les membres de l'expédition se retrouvent sur un plateau jonché de débris de rochers, un plateau frappé par le vent. C'est une station préhistorique, écrit Charles Brühl. Voyez ce coup de poing taillé par la main de l'homme des tribus kéléennes, ces pointes de flèches en feuilles de laurier, ces remarquables triangles à ailerons. Voyez évidemment la dimension scientifique, la dimension culturelle de l'expédition. Alors tout le monde a néanmoins conscience, et ô combien, du caractère dangereux du désert. Un soir, un mécanicien qui s'était étendu à terre se relève d'un bond. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a entendu siffler juste à côté de lui une vipère à cornes. Il l'avait pas vu. Hein. Le lendemain, un conducteur aperçoit des ossements humains et des vêtements en lambeaux. Tout ça est quand même un peu funeste, il faut le dire, et pas très accueillant. Il n'empêche, dans la compagnie, le moral est au beau fixe. Il faut dire que l'expédition bénéficie d'un bon accueil. À Beni Abbès, une diffa, c'est-à-dire un banquet, est organisé. La graisse des moutons embrochés grésille au-dessus des feux. La soirée se termine par un spectacle de danse. Tout va bien, on est heureux. On a l'impression de croquer dans l'aventure à belles dents. En vérité, et si je vous disais que tout cela ne fait que commencer? Bonjour Marc Menant.
Bonjour Franck.
Nous allons la vivre maintenant,
oh,
cette expédition.
Oui, 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 mais déjà on est parti grâce à vous.
Et voilà, on est en marche et on va voir comment la suite se passe.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La bande originale du film Atari sur Europe 1, proposé par Henri Mancini, un film réalisé par Howard Hawks avec John Wayne, c'était en 1962. Là, nous sommes au cœur des années 20, sur les traces de la fameuse croisière noire. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Marc Menant, journaliste et écrivain et auteur du petit roman d'Haïti aux éditions du Rocher.
Alors, nous avons juste vu cette extraordinaire expédition se mettre en branle d'une certaine manière. Ça se passe bien au début le désert, sauf que, évidemment, ça devient long par moment. Le 17 novembre, Louis-Audouin Dubreuil, qui est le père de l'auteur du très beau livre La Croisière Noire, hein, qui est édité, coédité par Glénat et la société Géographie, Audouin Dubreuil écrit « Nous venons de vivre 7 jours d'enfer, 4 jours d'angoisse et 870 km sans aucun secours. Nous venons de vaincre, le Tanezrouft, d'ouvrir une nouvelle voie vers le Niger à travers un désert que les caravanes contournent habituellement. Épuisés, les mécaniciens réparent. Lorsque nous les relayons au volant, nous les attachons par leurs mousquetons à la rambarde arrière. Ils tombent de suite dans un lourd sommeil et s'ils chutent, nous risquons de les semer. » Ce sont des conditions qu'on a presque du mal à imaginer, Marc.
Mais non, mais oui, mais c'est un défi technologique et un défi humain. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à l'époque, en général, celui qui ambitionne les grands voyages, les grandes aventures, l'exploration, c'est plus ou moins une tête brûlée. Et là, on est avec des intellectuels. Ils sont des ingénieurs, ce sont des personnages étonnants. Et tous, néanmoins, ont découvert par C'est la vie qui est venue à eux leur offrir le parfum de l'ailleurs. Et ce parfum de l'ailleurs, c'était le détour militaire de la guerre de 14 avec, vous l'avez cité, Audouin Dubreuil, qui va créer un aérodrome en Tunisie. Arthes, lui aussi, va connaître des missions en Afrique. Et donc, ils ont déjà un premier coup de cœur. Après, il faut reprendre Citroën, ce personnage qui est la pétillance incarnée, qui est un novateur, qui a l'obsession du dépassement, l'obsession de la transcendance. Et ce Citroën, donc, il lui faut imaginer les engins qui permettront de s'affranchir de ces difficultés naturelles que l'on connaît mal. Parce qu'il y a eu la première traversée du Sahara, mais c'est rien. Et là, il va falloir aussi se dire que les chenilles ne vont pas passer que sur le sable. Elles vont arriver sur des pistes ou parfois des intentions de pistes. On va évoquer tout à l'heure la traversée du Congo belge. C'est une forêt vierge d'une densité incroyable. C'est l'étuve, c'est toute la mouscaille lilliputienne qui rôdaille autour de vous. Les infiniment petits, ces mouches, ces moustiques.
Je précise pour nos auditeurs que Marc Menant y était. Évidemment, c'est plus facile. Hein, c'est pas...
Et dans ce contexte, vous êtes comme englué. Il y a une oppression qui vous prend. Mais les machines, elles souffrent aussi. Donc, il a fallu imaginer ces conditions de l'extrême. Déjà, le moteur, il récupère la vapeur parce qu'on sait que ça va chauffer. Chauffer, ça veut dire éventuellement faire tout exploser. Donc, comment récupérer cette montée en degrés pour qu'elle devienne efficace ? Invention des ingénieurs de Citroën.
Les chenilles. Ça, c'est le défi technique, toute
c'est
la partie
le défi technique.
Les chenilles fondamentales. Hein.
Ah bah sinon, ça serait impossible.
Le système qu'égresse, en fait.
Voilà, hein. C'est ça. Et alors, ce sont toutes les roues arrière, avec les éléments pour entraîner l'engrenage. Alors là, il faut savoir que Citroën est un grand spécialiste de l'engrenage. C'est la base même de son histoire. Il est allé, quand il avait 24 ans, à Varsovie, rencontrer sa sœur. Il furette partout. Il est allé. C'est l'homme de la curiosité. Et on lui présente un système d'engrenage. Il se dit, mais bon sang, c'est incroyable ça. Donc c'est un petit inventeur de recoin. Il lui achète. Il va revenir en France et de là créer de nouveaux systèmes. Et les engrenages, c'est quoi ? Ce sont les chevrons. Et les chevrons, c'est la marque Citroën.
Alors, d'ailleurs, puisqu'on en est aux marques et aux noms, il faut savoir que cette expédition, au départ, ne s'appelait pas la Croisière Noire. Elle s'appelait l'expédition Citroën en Centrafrique. Et en fait, elle n'est devenue la Croisière Noire que dans le film qu'en a tiré Léon Poirier. Il était sur le Tannesruft, hein, et il a comparé les autochenilles à des navires parce que il y a les, comment appelle-t-on ça, les mirages qui font trembler les images et qui déforment les voitures.
C'est-à-dire que quand vous êtes dans la voiture de tête,
c'est ça.
Vous retournez, vous voyez, il faut quand même savoir si ça suit ou si ça suit pas. Et là, dans cette terre qui décompose les éléments, vous en voyez une qui grossit, l'autre qui s'allonge.
On dirait des bateaux, voilà. D'où le nom qui est venu à l'esprit de Léon Poirier d'appeler ça la croisière noire. En fait.
Et vous êtes dans l'hallucination permanente. Et tout ça, ça agit bien évidemment sur l'esprit. Mais il y a les réalités. Vous avez parlé de l'eau. Alors on avait répertorié des puits. On se disait, tiens...
Enfin, ils étaient très rares.
Non, mais puis plus, quand on arrivait, ils étaient taris.
Et voilà.
Donc on va se retrouver dans ces situations épouvantables qui sont concrètement imagées par les squelettes que l'on rencontre. Il y a ici ou là des squelettes d'hommes, tout à l'heure vous avez dit, avec à côté les oripeaux qui ont continué donc à s'émietter. Il y a les cadavres d'animaux aussi. Et donc l'eau. Et on a prévu... dans une partie, les réservoirs d'essence. Mais il faut les retrouver. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que des hommes avec simplement des brancards,
des porteurs,
fassent toute une colonne parfois de 200 kilomètres.
D'où les fameuses missions dont je parlais tout à l'heure.
Bien sûr, qui étaient en amont de l'opération.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment un enfer, comme le dit Audouin Dubreuil.
Et puis les gens qu'on va rencontrer, les habitants sur place, réservent de grandes surprises, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à qui on va avoir affaire. Il faut bien être conscient qu'on est en train, sinon tout à fait d'explorer, en tout cas de traverser des pays et des contrées dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont d'abord pas très accueillantes et surtout très peu connues.
Oui, mais alors d'un autre côté, il y a une fascination. Vous avez des peuples qui n'ont jamais vu de blanc, et encore moins imaginé qu'une voiture pouvait exister pour propulser un être humain. C'est pétaradant, ça bouge, ça avance, ça soulage des efforts, et ils sont là, les yeux écarquillés, admiratif. Et il y a quand même une sorte d'élan spontané. Et très vite, je dirais, après cette période du désert, où là, il y a peu de rencontres, on va se retrouver avec une sorte de contamination des âmes. Et les uns et les autres viennent vers ces blancs qui ont un esprit extrêmement paternaliste. C'est-à-dire qu'ils sont en bienveillance. Ils ne sont pas là pour conquérir. Ils ne sont pas là pour coloniser. Ils sont là pour porter l'espoir. L'espoir de quoi? Eh bien, d'une civilisation. Une civilisation de la modernité. Ils s'imaginent pas qu'ils vont tout perturber.
Oui.
Mais dans tout cela également, il y a la beauté des peuples. C'est-à-dire que dans les images, vous avez cité le livre La croisière noire d'Ariane Audouin Dubreuil. Il est magique ce livre.
C'est la avec fille des... de
voilà,
Audouin
voilà,
Dubreuil.
Voilà. Et avec des documents, vous
incroyable.
Êtes dedans, mais c'est incroyable.
C'est plus qu'un livre, hein. C'est une sorte de petit trésor parce que c'est bourré de poches, de soufflets, d'enveloppes, etc. dans lesquelles se trouvent des cartes, des documents.
Et
c'est
des
formidable.
Manuscrits.
Des manuscrits.
C'est
magnifique.
Étonnant. Et là, vous y êtes. C'est-à-dire, si vous voulez oublier vos emmerdes du quotidien, si vous voulez dire que le monde a encore
là-dedans.
Un avenir, vous partez avec cet ouvrage, c'est extraordinaire. Et donc, il y a, par exemple, Audouin Dubreuil qui dit « J'ai rencontré la pure beauté simplement en voyant des femmes peules. Elles sont là, elles ont ce port magique, cette grâce inouïe. Mais il n'y a pas que la posture, c'est-à-dire cette silhouette qui leur apparaît. » Tous ces peuples incarnent une certaine gaieté. C'est l'Afrique joyeuse.
Oui, c'est ça.
Et aussitôt...
Non seulement joyeuse, mais totalement énergique, énergétique.
Voilà,
hein.
c'est ça. Il y a la frénésie. Et cette frénésie, elle se voit dans les popotins qui s'agitent de façon merveilleuse.
Ça, c'est vous qui voyez ça.
Non, mais eux aussi, ils le disent. Et ils sont fascinés. Et il y a les tam-tams. C'est le boudou-boudou, c'est le portable de l'époque.
Je savais que cette émission allait un peu dégénérer, j'étais presque obligé.
Et donc, ils sont là parfois, font des kilomètres et des kilomètres dans ces conditions de pénibilité inouïe. On n'imagine pas comment la chenille soudain se trouve brisée, comment les organes mécaniques se retrouvent en souffrance tant et si bien qu'il faut par exemple que Penaud, le chef mécanicien, qu'un personnage étonnant, sans lui et ses camarades qui sont à son service, jamais il ne serait arrivé au bout. Parce qu'on a beau prévoir les pièces de rechange, c'est que ça craque, ça brise tellement qu'on est vite en rade.
C'est un dur à cuire, Penaud, hein. Il est incroyable.
Mais alors joyeux, rien de décourage. Ces gens-là se lèvent à 4h30 le matin pour partir. Bon, on est là dans un à peu près, avec aucun repère. On a beaucoup de mal aujourd'hui dans notre monde banalisé.
Avec des GPS partout.
Voilà, de se projeter dans ces conditions. On est dans un monde où il n'y a, dans certains endroits, jamais eu la moindre pénétration blanche. On n'a pas les moindres informations, les moindres paramètres, où à tout moment le danger peut surgir. Le danger, c'est quoi? C'est éventuellement l'arbre qui vous tombe sur la tête dans la forêt vierge, mais c'est aussi éventuellement la mauvaise rencontre. Tout à l'heure, vous parliez du serpent, mais ça peut être le boa, ça peut être le crocodile. Alors là, il y a une anecdote à un moment donné, c'est Poirier. Alors Poirier, il est là pour réaliser le film. Là aussi, allez, il y a à Paris des possibilités de voir les films de La Croisière Noire. Et vous êtes là encore dans cette magie, dans cette prospection, je dirais, du passé. Et là, un jour, il engueule Audouin Dubreuil qui pense avoir tué un crocodile. Alors vous allez dire, ça y est, nous voilà avec la chasse, l'homme blanc qui est en train d'éradiquer une civilisation qui se comporte en terrain conquis. Non, il y a le désir aussi d'avoir des témoignages des espèces
sûr,
qui
oui.
vivent sur place, donc la chasse est nécessaire. Et c'est là que Bettembourg, entre autres, et le chirurgien vont servir...
Bettembourg, c'est le militaire.
C'est le militaire, oui, le commandant.
Oui.
Et puis après, il y a Bergonnier, qui lui est l'homme de la médecine, mais qui est aussi taxidermiste. Donc on va chasser. Et Audouin pense avoir tué un crocodile. Poirier l'engueule en disant « Vous auriez pu attendre que je sois là pour filmer !» Et là, Audouin monte un peu la voix. Il donne un coup de pied, sans le faire exprès, dans le cadavre du crocodile, qui soudain rue et il n'avait pas du tout été tué. Imaginez la panique. La bestiole vorace qui, d'un grand coup de gueule, essaie de se venger de l'intention de meurtre qui avait été commise
à son
endroit. Et la bête, bien évidemment, va partir. Mais alors le drame, c'est que Poirier, à ce moment-là, il fait nuit, il ne peut pas filmer non plus.
Quand je vous dis qu'il y était...
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Franck, nous retraçons avec vous sur Europe 1 la croisière noire. Pour vous accompagner sur les routes de cette expédition des années 20, vous recevez Marc Menant, journaliste et écrivain.
Marc Menant qui est encore, c'est extraordinaire.
Encore sur place.
Il y a des réactions bien entendu, et notamment Pierre me fait observer, il a parfaitement raison, que Stanleyville, fondée par l'explorateur Stanley bien entendu, n'a jamais été la capitale du Congo belge. Stanleyville aujourd'hui s'appelle Kisangani, le Congo belge avait pour capitale Léopoldville qui est aujourd'hui Kinshasa, dont acte cher Pierre. Alors justement...
Oui mais Stanleyville ça amuse. Ils ont quand même de rappeler.
Oh, c'est incroyable.
Parce que,
les circonstances de la création sur cette île de Stanleyville.
Voilà. Et Stanley, qui était un journaliste qui avait été envoyé par le New York Times sur les traces de Livingstone. Livingstone, l'homme de l'errance de l'Afrique. Alors là aussi, bon, vous avez sans doute fait une émission sur le personnage.
Certes.
Et Stanley, c'était une sorte d'escroc, un homme de l'esbrouf, mais aussi un homme du courage. Et il a fini par arriver en cette ville où il s'était porté après avoir traité, il avait abandonné le journalisme pour se mettre au service de Léopold II, il a créé Stanleyville. Oublions ce personnage.
Mais restons dans les cartes et dans la géographie, parce qu'il faut quand même revenir sur l'itinéraire.
Tout à fait.
Par où passe-t-il finalement Il s'enfonce dans le cœur même de l'Afrique.
Voilà, c'est complètement. C'est-à-dire que c'est le Congo belge, le Centrafrique, et puis il va y avoir la séparation en quatre groupes. Un groupe qui va aller vers le Kenya, un groupe qui va descendre vers le Mozambique, l'autre groupe qui va jusqu'au Cap, et l'autre qui est un tout petit peu plus haut que le Kenya. Et là, c'est deux voitures par deux voitures, donc vous imaginez. Quand vous êtes...
Ça devient de plus en plus inquiétant quand même.
De plus en plus inquiétant. Et alors le plus mal loti en l'affaire, ou disons le plus chanceux quand on aime les émotions fortes, ça sera Hart. Parce que
C'est le chef de l'expédition.
C'est le chef de l'expédition. Et lui, il hérite de la voie à percer en se rendant vers le Mozambique. C'est totalement inextricable. Jamais personne n'est passé par là et jamais personne n'a eu l'idée d'essayer de pénétrer ce monde végétal. Et là, il va aller avec ses deux chenillettes, avec ses voitures, donc... qui, à certains endroits, sont totalement embourbés. Il faut faire attention, ils vont inventer le scenic railways. C'est quoi ? Eh bien, quand vous arrivez sur un erg qui est un peu trop inondé, il faut arriver à le passer. Mais comment ? Alors, on essaie de donner le maximum d'élan. Mais ce sont des voitures, bien que rutilantes et puissantes, qui ne dépassent guère le 25 km/h.
Oui.
Et puis, il y a le poids derrière. Alors donc, on essaie de prendre le maximum d'élan. Et ça te pétarade de partout. Et là, on plonge dans l'eau. Et sur l'élan, on essaie d'aller le plus loin possible. Et puis ensuite, il va falloir
tirer. Ah oui.
Alors la deuxième, c'est plus facile parce que quand une première est arrivée de l'autre côté, après au moins 3 heures d'effort inouï, eh bien là on prend des câbles et on la tire. Ce sont donc des conditions épouvantables où l'astuce est indispensable. Tout à l'heure, je vous parlais de la fragilité de ces engins, des pièces mécaniques qui finissent par manquer. Et un jour, les cieux de l'une de ces rutilantes qui vient d'être brisée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Que faire ? Et on voit le penaud, qui lui ne l'est
pas. Le fameux mécanicien,
le fameux mécanicien, le chef, qui en rigole. Parce que dans son cerveau vient de germer la bonne idée. Il avait récupéré des os d'éléphant.
Des ossements.
Oui, voilà. Et il avait, entre autres, un fémur. Et dans sa tête, il s'est dit, mais c'est simple dans le fond. Un essieu, ça vaut un fémur, ou un fémur vaut un essieu. Et il réussit ce bricolage invraisemblable de placer cet os d'éléphant, et avec ça, la voiture va pouvoir repartir. Vous voyez, et ça, ce sont les conditions de l'extrême. Mais néanmoins...
C'est ce qu'on appelle l'aventure, ça, Marc.
Ah bah oui.
Là, la véritable aventure, il faut faire preuve d'inventivité, de très grande ténacité. On pourrait même parler de pugnacité.
Et sans oublier les circonstances. C'est-à-dire que quand vous êtes là dans l'effort, vous êtes dans la sueur. Qui dit sueur, dit quoi ? Eh bien, dit toute cette fourmille ailée qui vient vous aiguiser non seulement les nerfs, mais qui vient vous
picorer la peau.
Voilà, le rable. Et vous êtes dans les boursouflures les plus inouïes, dans les démangeaisons. Il faut continuer malgré tout. Et le soleil, le grand tisonnier là-haut, qui va de son ardeur. Et rien, rien ne doit vous arrêter. Alors ce qui est vrai, c'est que Citroën partait du principe que quand l'homme va dans l'extrême, il lui faut de bonnes conditions.
Oui.
Alors qui dit bonnes conditions, c'est un minimum de confort.
C'est-à-dire qu'on voyage un peu à la façon d'Hercule Poirot quand même.
Non mais c'est ça, c'est presque le Transorient Express.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que le soir, alors déjà, on s'arrête à la mi-journée. Pas uniquement parce que c'est le moment où il faut plus supporter l'ardeur solaire, non. C'est parce qu'il faut savoir se reposer. Il est vrai qu'on se lève à 4h30 du matin, donc, et avec ce cheminement tel qu'on vient de le décrire. Donc on reste là, et là on fait cuisine. Je dirais presque bombance, en fonction de la chasse. Il y a le cuistot, Baba, qui doit faire preuve lui aussi de génie pour que les hommes connaissent l'effervescence des papilles. On est dans la pâmoison, on est dans le moment de la grande table. Et le soir, pas question d'être là avec un sac de couchage tel le vulgaire beatnik
des
années
60. Hein,
oui, les salons. Alors de grandes tentes. Et Art, il va plus loin que ça, le grand chef. Il a carrément un meuble en cerisier. Et c'est dans celui-ci qu'il trouve toutes ses affaires pour les ablutions. Alors vous avez le peigne.
Tout un nécessaire de toilette.
Tout un nécessaire de toilette. Et quel qu'en soit l'endroit, le soir, on lui dresse pour qu'il puisse connaître comme ça les effets régénérateurs.
On est encore à l'époque où tout aventurier qu'on puisse être, on s'habille pour dîner, etc.
Ah ouais, et alors quand ils arrivent dans les villes où enfin, donc, bon, imaginez, c'est la parade tout de suite quand ils se présentent, il n'est pas question d'apparaître devant les foules enthousiastes, en haillons, dépenaillés, avec la boue. Oh que non, mon ami, nous sommes des seigneurs, nous représentons la civilisation. Alors là, on brigue le casque colonial, on met les meilleurs habits bien repassés, et on apparaît comme si on était sur les Champs-Élysées un 14 juillet. C'est extraordinaire.
Ouais, il y a une certaine tenue dans tout ça.
Ah
je
oui.
me dis en vous écoutant qu'il y en a un qui a dû beaucoup regretter de n'être pas sur place avec eux, c'est André Citroën lui-même.
Alors, on peut se dire qu'effectivement, il avait participé à la première expédition, la traversée du Sahara. Et ce personnage-là, de toute façon, il suivait. On recevait, quand c'était possible, des télégrammes. Et de temps en temps, d'ailleurs, il influence la suite du parcours. Donc, je dirais qu'il est, par l'âme et par l'esprit,
ah oui, il est présent avec
au
eux.
Contact de ces hommes.
Mais
il n'est pas, oui, on ne peut pas être le patron, on ne peut pas être le défricheur, on ne peut pas être l'homme de l'allant et éventuellement être aussi celui du terrain.
Et l'homme de la perpétuelle remise en cause,
à
parce que ce qu'il y a de fascinant avec Citroën, mais ça dépasserait très largement le cadre de cette croisière noire, c'est qu'il aura passé sa vie à se créer des défis, à aller toujours plus loin, à tout réinvestir.
Enfin, je le considère un peu comme Gustave Eiffel.
C'est ça.
Il y a une sorte de parallèle entre les deux.
Une sorte de fils spirituel.
Voilà. Et ce personnage-là est toujours dans une recherche de galvanisation. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de transcendance. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Il avait su choisir ceux qui étaient dignes de représenter et d'illustrer son esprit de conquête.
Merci beaucoup, Marc Menant. Tout est dit ou presque. Le reste se trouve dans ce très beau livre-objet, peuplé de documents rares et de souvenirs inédits sur les traces de l'expédition Citroën Centrafrique de Ariane Audouin-Dubreuil. Mais oui, la fille de notre Audouin-Dubreuil. Un ouvrage qui s'appelle tout simplement La Croisière Noire et qui est co-édité par Glénat et par la Société de Géographie.
Et on continue à parler d'aventure sur Europe 1, puisque dans un instant, Franck, vous répondrez à la question d'Alexandre sur le site internet europe1.fr. Pourriez-vous nous expliquer les origines du camping ? À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question d'Alexandre sur le site europe1.fr. Bonjour Franck, pourriez-vous nous expliquer les origines du camping en France ?
Alors, il y aurait beaucoup à dire et je trouve que c'est amusant, après avoir parlé de la grande aventure, d'évoquer effectivement la petite. On parlait des bivouacs extraordinaires de l'expédition Citroën. Ce qui va vous dire le point commun, d'une certaine manière, c'est quand même le prix du matériel, du premier matériel de camping, hein, parce qu'on n'avait pas encore de tentes faciles
secondes.
Et de petites choses. Hein, donc, ça coûtait quand même relativement cher, d'où des coopératives qui se créent, des coopératives d'excursion, et on va avoir des clubs. Le premier des clubs de camping en France, c'est le Camping Club français, le CCF, qui a été fondé en mars 1910 à Paris. Alors ça veut pas dire qu'on allait camper sur le Champ de Mars, ça veut dire que les gens se retrouvaient à Paris pour aller camper un peu partout, et l'on est au début de cette redécouverte d'un lien avec la nature, avec les grands espaces, etc. Vous imaginez bien que ceux qui ont mis ça à la mode au départ, ce ne sont pas les Français. Là, il faut être honnête. Je cite un article du journal L'Auto qui date de 1903 et qui nous dit... Eh bien entendu, les Anglais ont le génie de ces organisations en plein air. Depuis longtemps, le goût du camping out, c'est ça le vrai terme anglais, hein, to camp out, le goût du camping out et du bivouac lointain a pris dans le Royaume-Uni des proportions considérables. On est, vous savez, dans la grande époque de redécouverte de la nature, de l'hygiénisme, etc. Alors, en Grande-Bretagne et bientôt aux États-Unis vont naître les YMCA, vous savez, les Young Men's Christian Associations. Tout ça est lié aussi au mouvement de scoutisme. Enfin, en tout cas, il y a un lien, on pourrait faire un rapprochement. N'oublions pas l'influence de l'Allemagne et de la Suisse où le camping apparaît comme un outil pour prolonger les moments passés au contact de la nature. Faut pas oublier la paternité allemande des auberges de jeunesse, ce qui va d'ailleurs donner naissance en France à tout un tissu également d'auberges de jeunesse. Bref, le camping est essentiellement né en Angleterre. Il a trouvé son lieu d'élection en Allemagne. Vous allez dire, mais la France dans tout ça? Ben, la France, elle a suivi et elle est devenue, vous le savez, la championne du camping de vacances, mais ça, ce serait déjà presque un autre sujet.